Bonjour à toutes et à tous, je suis Kevin Ona et vous écoutez le Paris Noir Podcast. Avant toute chose, je voudrais vous remercier pour les retours et les partages concernant l'épisode avec Sally Coco Mufuene. Si vous ne l'avez pas encore écouté, c'est une conversation avec un linguiste de l'Université de Chicago sur l'origine et le futur des langues créoles. Par ailleurs, M. Mufuene va occuper la chaire annuelle des mondes francophones au Collège de France à partir de la fin du mois de mars. Si ça vous intéresse et que vous êtes à Paris, c'est sur Entrée Libre. Aujourd'hui, je suis à la FME, Place de la Concorde, avec Madame Florence Alexis pour vous parler d'une exposition, Oser la liberté, figure des combats contre l'esclavage dont la FME est partenaire. Elle est visible au Panthéon jusqu'au 11 février. Il ne reste plus beaucoup de jours, donc foncez-y. Madame Alexis, bienvenue au podcast. Comment allez-vous ?
Bonjour, Kevin. Je vais bien, parce que l'exposition dont on va parler a pas mal de succès. Elle est très visitée, donc c'est agréable de parler d'un projet qui fonctionne, qui marche.
Bah oui, toutes mes félicitations. Mais déjà, commençons par le début. Vous êtes ingénieur culturel, archiviste, documentaliste et commissaire d'exposition. Vous avez produit des expositions itinérantes majeures comme Haïti, 500 ans d'histoire. Vous avez piloté le concours international du Mémorial de l'esclavage des Nations Unies à New York pour l'UNESCO en 2012. Déployé les programmes du Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage et contribué à la modélisation du concours pédagogique national « La flamme de l'égalité » avec la Ligue de l'enseignement et le ministère de l'Éducation. C'est bien ça ?
C'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça. J'ai modélisé le concours, j'ai fait le premier test national en 2015 à la demande de la ministre de l'Éducation et de la ministre des Outre-mer à l'époque, Georges Pollangevin. Et c'est comme ça qu'on a pu lancer le concours qui maintenant vole de ses propres ailes avec beaucoup de succès, comme vous le savez.
J'ai deux questions pour commencer. En quoi consiste votre métier et comment êtes-vous arrivé à travailler sur la mémoire de l'esclavage ? Une histoire familiale, peut-être ?
Alors, mon métier, c'est l'exposition. J'ai commencé un peu avant à travailler avec les artistes, beaucoup. Donc, pendant les années précédant mon arrivée, au programme du Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage. J'ai beaucoup travaillé à un endroit qui s'appelle aujourd'hui l'Institut français, qui s'appelait à l'époque l'AFA, Association française d'action artistique, et à la Fondation Afrique en création auparavant, où j'ai créé et déployé tous les programmes d'appui à la création contemporaine pour les arts visuels en Afrique. Et de là, évidemment, j'ai été invité à parler à travailler sur l'histoire de l'esclavage. Et il est vrai que mon histoire familiale, puisque je suis d'origine haïtienne, mon père est à la fois un grand écrivain et un combattant pour la liberté en Haïti.
Jacques-Stéphane
Alexis, qui a été tué par pendant la dictature de Duvalier en 1961. Mais avant mon père, j'ai tout un lignage de résistants. C'est ce qu'on appelle en Haïti les anciens libres. Donc c'était des gens qui ont obtenu ou arraché leur liberté avant l'abolition de 1793 en Haïti, enfin à Saint-Domingue à l'époque.
Parlons un peu de comment cette expo a vu le jour. C'est une initiative du Centre des Monuments Nationaux et de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Elle retrace l'histoire d'un combat, celui de la liberté contre l'esclavage, une marche qui s'est déployée sur plus de 4 siècles et 3 continents, traversée de moments de rupture, de régression, de temps forts et de bascule. On y découvre l'audace de ces femmes et de ces hommes illustres ou méconnus qui ont osé se dresser contre l'esclavage dans les colonies comme en Europe. Pourquoi, selon vous, le Panthéon est-il le lieu idéal pour cet événement ?
Mais effectivement, comme vous l'avez dit, quand la Fondation pour la mémoire de l'esclavage m'a contacté, pour penser une problématique autour d'un projet d'exposition accueilli par les Monuments Nationaux et le Panthéon, j'ai trouvé qu'il était pertinent de se relier à l'histoire même du monument. Parce que le Panthéon est déjà en soi une forme de mémorial aux grands hommes et aux grandes femmes de l'histoire de la République en France. Depuis la Révolution française, c'est un lieu qui a ouvert au début de la Révolution française. Et la première figure qui a été accueillie au Panthéon, c'est Mirabeau.
Et expulsé.
Oui, ensuite, mais bon, ça c'est la petite anecdote, oui. Mais enfin symboliquement, c'est Mirabeau qui est rentré le premier. Et quand on connaît un petit peu, quand on travaille comme moi, avec, je l'ai fait avec les historiens au Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage, on sait comme que le rôle que Mirabeau a joué au sein de la Société des Amis des Noirs, en tout cas au sein du mouvement abolitionniste français. Donc si vous voulez, il y a un lien historique absolument naturel entre le Panthéon et cette histoire. Même si elle est rarement évoquée au sein du monument, elle l'est de toute façon tout de même, puisque, comme vous le savez, il y a des inscriptions en hommage à Toussaint l'Ouverture, à Louis Delgrès, le Guadeloupéen qui s'est opposé au rétablissement de l'esclavage par le consul Bonaparte, à Aimé Césaire. Et vous avez deux autres grandes figures, il y en a bien d'autres et plus anciennes, mais vous avez deux autres grandes figures qui sont importantes quand même dans, disons, l'histoire de l'émancipation. C'est Félix Éboué, qui était gouverneur de l'AOF et qui a été le premier gouverneur à rejoindre la France libre, oui, en 1940, et qui, à ce titre, est le troisième compagnon de la libération du général de Gaulle, et qui est rentré au Panthéon en 1949, 100 ans après les célébrations de l'abolition de l'esclavage de 1848, à l'initiative de Gaston Monnerville, qui est donc le Guyanais, qui est déjà à l'époque était le président de ce qui va devenir le Sénat en France. Et il rentre en compagnie de Victor Schoelcher, qui est évidemment le grand abolitionniste du 19e et qui est à l'origine de l'abolition de 1848. Donc si vous voulez, c'est très facile de trouver les liens entre le Panthéon et cette histoire. Et évidemment, notre objectif à nous, c'était de montrer qu'il y a bien d'autres personnages qui sont parfois un peu effacés, gommés, oubliés, et que l'exposition nous permettait de remettre en valeur à égalité avec ces figures beaucoup plus célèbres, comme l'abbé Grégoire aussi, qui a été un des grands abolitionnistes au moment de la première abolition.
Je voudrais ajouter que le Panthéon, pour moi, est un endroit qui représente beaucoup d'un point de vue professionnel et personnel. Professionnel parce que ma visite principale, rive gauche, commence place du Panthéon, que je commence en disant que c'est un des rares grands monuments parisiens. On ne peut pas faire l'impasse sur nous, à travers les valeurs qu'il représente, les gens qui y sont honorés. Et puis, moi, ce que je trouve aussi très intéressant, c'est que encore aujourd'hui, au XXIe siècle, le Panthéon est un monument à l'héritage contesté. Par exemple, en décembre dernier, on a eu une manifestation d'extrême droite qui s'est tenue place du Panthéon avec des slogans anti-immigration. Donc, c'est un groupuscule qui s'appelle Les Natifs. On pouvait y entendre des slogans comme « Français, réveille-toi, tu es ici chez toi ».
Le mot d'ordre est clair, demander que justice soit rendue pour Thomas, un adolescent tué lors d'un bal à Crépole le 19 novembre. Ce rassemblement à Paris a réuni des membres de l'ultra-droite.
Pareil, il y a un peu plus d'un an, en janvier 2023, j'avais vu, un peu par hasard, j'étais tombé sur une manifestation de l'association qui a été dissoute depuis Civitas. Avec un défilé en hommage à Sainte-Geneviève, et parlait du Panthéon comme d'une église volée par la République maçonnique.
La République, elle, n'a pas d'ancêtre. Ses fondements ne sont ni glorieux, ni solides. Le devoir de mémoire républicain se fixe sur des chimères, des mensonges, et vénère les destructeurs de la France, ici, ceux qui tuent les esprits et qui tuent les corps, de Voltaire à Simone Veil, dans l'un des bâtiments, nombreux bâtiments, qu'elle a volés à l'Église et aux Français.
Donc il y a encore des enjeux autour de
Civitas,
cet endroit.
Civitas, vous en parlez, c'est très intéressant. Je viens de citer le nom de l'abbé Grégoire. L'abbé Grégoire est l'un des grands orateurs de la première abolition de l'esclavage en France en février 1794. Mais avant ça, dès 1790-92, donc au début de la Révolution, il va être l'orateur du vote par la Convention de l'égalité des gens de couleur en France au mois de mai. Et au mois de septembre, c'est lui qui est l'orateur pour la citoyenneté des Juifs en France. Et quand Civitas a été interdite il y a quelques mois, à la suite d'une conférence d'un historien invité par l'association, une des choses qui lui a été reprochée, c'est dans cette conférence d'avoir prôné l'annulation de cette loi de citoyenneté des Juifs en France. Donc vous voyez à quel point on parle d'une même histoire, comme cette histoire, elle est commune, elle est partagée. Et c'est ça que nous avons, nous, avec mon complice Jean-Marie Théoda, qui est professeur à la Sorbonne. C'est ça qu'on a essayé aussi de mettre en valeur. C'est l'idée que c'est une histoire qui est commune, qui est partagée. Par des populations peut-être différentes, par certaines singularités de leur histoire, mais qui partagent tous ces chapitres, et notamment l'histoire de la Révolution, où tous ces intérêts vont être défendus par différentes figures. Et donc c'est important pour les gens de comprendre qu'au Panthéon, on raconte l'histoire, mais on raconte toute l'histoire. Et les figures qui sont moins connues et dont nous parlons dans l'exposition, ce sont également des gens qui ont fait vivre les vertus de la République, les vertus civiques que le Panthéon célèbre, parce que les esclaves, quand ils s'engagent dans leur révolte contre l'esclavage, ils font vivre les valeurs de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui les a précédés. Donc vous voyez, là, on est sur un terrain commun, à condition de bien regarder les différentes facettes de cette histoire.
Dans l'exposition, on aborde le code noir, dont j'ai déjà parlé dans l'épisode sur les Jacobins noirs. C'est un objet qui divise et agite les passions. On entend tout et son contraire. Le code noir protège les esclaves et fait de l'esclavage dans les colonies françaises une institution plus humaine que dans les autres colonies. Ou à l'inverse, le code noir est le texte juridique le plus monstrueux qui ait produit les temps modernes. C'est une citation du philosophe Louis Salamolin. Comment vous situez-vous sur la question ?
Moi, j'ai l'impression que tout est vrai, si vous voulez, parce que ce qui est frappant dans le Code noir, je crois que c'est Myriam Cotias qui écrit ça dans une préface à une réédition du Code noir, enfin une édition critique du Code noir. Elle dit que c'est un texte hybride. Et c'est un texte hybride, d'autant plus qu'il va faire l'objet de plusieurs, on va amalgamer des textes de différentes périodes qui chacun avait des objectifs politiques ou sociaux différents. Ce qui fait qu'au bout du compte, ce code noir, il est constitué d'une multitude d'approches, de volontés, et il est le résultat de tout ça. Donc ça ne m'étonne pas que chacun voit midi à sa porte dans ce texte, parce qu'il répond à plusieurs soucis, à la fois... Le premier code noir, qui d'ailleurs ne s'appelle pas code noir, hein. C'est important de savoir.
C'est une réédition qui va
oui,
utiliser
le premier nom, c'est un édit royal. C'est l'édit du roi qui, 1685, Louis XIV et Colbert. Et Louis XIV demande à Colbert de lui rédiger un texte. Et là, on est dans une approche très politique, et je dirais même géopolitique. Parce que c'est le moment où la France prend pied dans les Amériques, où elle pose le pied en Martinique, notamment, en 1635. Et en 1685, quand ce premier édit royal va être constitué, en fait, le roi veut annoncer au monde que la Martinique et les territoires sur lesquels la France s'installe rentrent dans le domaine royal. Donc c'est vraiment un acte géopolitique d'appropriation territoriale. On ne peut pas nier ça. Ça fait partie du texte et c'est la première volonté du texte. Mais il est évident qu'ensuite, dans ce texte, vont prendre place des chapitres qui sont là pour réglementer la vie dans la colonie, réglementer les rapports sociaux entre les colons et les esclaves, en tout cas les captifs quand ils arrivent d'Afrique, avant même qu'ils soient achetés ou vendus sur des plantations. Et les rapports entre ceux qui naissent et ceux qui viennent et qui arrivent d'Afrique, les rapports entre ceux qui résistent et qui fuient et ceux qui évidemment veulent garder leur propriété et leur force de travail intactes sur les plantations. Donc tout ça vous fait bien voir que c'est le code noir et les codes noirs, en fait, on devrait en parler au pluriel, parce qu'en plus, ils ont existé pratiquement dans toutes les colonies à esclaves, on va dire, hein, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Amérique latine. Donc, vous avez des codes noirs en espagnol, en anglais, en français.
Les Black Codes aussi aux États-Unis qui arrivent, mais aussi dans un contexte où c'est plus de la ségrégation dont il est question.
C'est pas ça, c'est-à-dire qu'ils existaient avant. Les codes noirs existent dans l'esclavage aux États-Unis, mais ce qu'on appelle les Black Codes aujourd'hui, ce sont en fait des codes qui sont inspirés des codes noirs, mais qui permettent d'instaurer la ségrégation après l'abolition de l'esclavage. Donc on va voir ce qu'on va voir d'ailleurs dans l'exposition également, c'est-à-dire qu'une fois que l'abolition va être prononcée, tout reste à faire, puisque l'égalité est installée, la distinction raciale et la hiérarchie raciale sont installées par l'esclavage, et après, c'est le travail de tous les gens qui, depuis le post-esclavage jusqu'à aujourd'hui, luttent. Il faut reconquérir l'égalité et disons, oublier ou en tout cas effacer les préjugés raciaux qui y sont installés par la même occasion.
Vous parlez de la traite comme d'un premier acte de la mondialisation.
Oui.
Entre la fin du XVIIe et le début du XVIIIe siècle, le commerce transatlantique enrichit quelques personnalités. J'aimerais que vous nous parliez d'Antoine Crozat, l'homme le plus riche de France à cette époque.
Ben, Antoine Crozat, c'est effectivement une des très grandes fortunes. Son portrait est d'ailleurs exposé au château de Versailles en majesté, de même que le portrait du premier député noir Jean-Baptiste Bellay, qui également est à Versailles. Crozat fait partie de ces gens, avec plusieurs autres banquiers d'ailleurs. On développe beaucoup l'épisode dans le catalogue, va être parmi ceux qui vont investir dans la traite, parce qu'évidemment, quand on veut aller chercher des esclaves sur le continent africain, il faut affréter des bateaux, il faut affréter des navires, les équiper, parce qu'après il va falloir transporter des êtres humains pendant quelquefois presque 2 mois, parfois même plus que 2 mois, à travers l'océan Atlantique. Donc c'est un armement particulier. Il faut aussi transporter un certain nombre de denrées qui vont servir de troc ou d'échange avec les populations auxquelles on va acheter des êtres humains. Il y a aussi, parmi ces expéditions vers l'Afrique, vous avez des expéditions qui comprennent aussi des phases de razzia. Oui. Où parmi les équipages, vous avez des hommes qui sont chargés d'aller chasser les esclaves pour les ramener vers les navires et pour les déporter vers les Amériques. Donc tout ça, ça veut dire qu'il y a un investissement qui est important au départ. Donc ces navires qui vont partir de tous les grands ports de France, Le Havre, même Honfleur, on l'a un peu oublié, qui est un petit port négrier, évidemment Lorient, et puis plus au sud, La Rochelle, Bordeaux, le Nantes, voilà, qui est le premier port négrier en France. Mais également des ports comme Marseille, qui ont fait beaucoup moins de trafic négrier, mais qui en ont fait néanmoins. Donc voilà, à partir de ces ports-là, il faut affréter des bateaux puissants, avec des équipages, avec du matériel, pour des longues campagnes qui vont durer plusieurs mois. Et donc, un homme comme Crozat va être parmi ceux qui vont réellement investir dans ce commerce avec plusieurs autres, avec notamment plusieurs autres banquiers. Et en fait, il va aussi en tirer un énorme profit. Et d'ailleurs, son gendre, enfin, quand il a doté sa fille qui s'est mariée, c'est son gendre qui, avec la dot de la fille de Crozat, construira le palais de l'Élysée.
Oui. L'hôtel d'Evreux qui deviendra le
palais de l'Élysée. Qui deviendra, enfin, aujourd'hui, qu'on appelle aujourd'hui le palais de l'Élysée, qui était l'hôtel d'Evreux. Donc, on voit bien que là, on a affaire à des fortunes qui sont très vite construites, qui sont extrêmement importantes et qui vont modifier complètement le contexte, même en France. On le voit aussi dans l'exposition à travers des objets où on voit comment l'industrie sucrière va totalement modifier le contexte français, va enrichir pas seulement des aristocrates, également des bourgeois. Et on voit qu'il y a un luxe qui se déploie dans ces familles bourgeoises ou aristocratiques qui est lié évidemment à l'enrichissement provoqué par le vol du travail des esclaves, puisqu'on vole leur travail sous la contrainte.
Il y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit. L'endroit où on se trouve, Place de la Concorde, donc l'hôtel de la Marine, qui avant d'être l'hôtel de la Marine a été le garde-meuble de la couronne. Aujourd'hui, qu'on visite l'hôtel de la Marine, c'est transformé en appartement bourgeois du XVIIIe siècle, avec justement tout cet art de vivre à la française à base de café, de chocolat et de sucre.
Je vous propose une visite à la découverte des secrets de l'hôtel de la Marine, un lieu où la petite histoire du monument s'entrecroise avec la grande histoire de France et où certaines pièces que nous allons traverser en disent long sur la manière de vivre de l'élite du XVIIIe siècle.
Et ça fait partie du, justement d'un style de vie à la française. Vous parliez aussi de ce qu'il faut en termes d'armement, d'organisation pour faire ce genre d'expédition. J'avais vu un documentaire d'Arte sur la naissance de l'assurance telle qu'on la connaît, avec les Hollandais, les Britanniques, puis les Français qui
même
s'y
la
mettent.
Bourse.
Oui, la bourse aussi, tous ces enjeux-là.
La bourse, parce que tous ces gens-là ont vraiment, non seulement ils ont investi, mais ils ont vraiment développé des systèmes financiers très spécifiques. Et notamment, je crois que c'est le New York Times, il y a quelques années, qui avait fait tout un dossier autour du premier navire qui a amené des Africains sur le continent. Enfin, sur
1619.
Voilà. Oui. Et autour de ça, il y avait un gros dossier et on montrait justement comment les bourses européennes s'étaient très vite emparées de ce commerce florissant.
They say our people were born on the water. The very first enslaved Africans were brought here over 400 years ago. Since then, no part of America's story has been untouched by the legacy of slavery. This is the 1619 Project.
The New York Times
1619 Project.
Je voulais ajouter quand même une petite chose sur laquelle je suis passée rapidement, c'est que pendant cette période, l'essor de ce commerce, il y a également une autre chose qui se met en place, c'est que les familles de planteurs vont commencer à revenir en France.
D'accord.
Avec des esclaves.
Oui.
Et ils vont revenir en France avec des esclaves. Qui vont leur servir de domestiques. Et c'est important dans notre exposition et dans l'histoire qu'on raconte parce que tout le monde a vu des portraits de petits pages, de petits domestiques noirs sur les tableaux du XVIIe et du XVIIIe siècle. Les gens savent rarement, parce qu'ils ne sont jamais désignés comme esclaves, les gens savent rarement que ces soi-disant domestiques étaient des esclaves et qu'ils étaient amenés en tant qu'esclaves et qu'ils arrivaient dans ces familles en tant qu'esclaves. Jusque dans les familles aristocratiques, bien sûr.
Mademoiselle de Nantes, etc.
Absolument. Et dans l'exposition, on a justement ce récit de la présence de ces jeunes enfants qui souvent sont amenés, offerts en cadeau à des demoiselles d'Orléans, etc. Qui vont distraire les cours aristocratiques. On s'en servait un petit peu comme des mascottes, n'est-ce pas? Mais on se moquait d'eux également. On les exploitait.
Je me permets de vous interrompre parce que justement, dans le catalogue, vous dites que oui, ce sont des esclaves, mais on fait tout dans la façon, par exemple, de les habiller,
oui,
de les traiter, de les couvrir d'habits de luxe, etc., de les éloigner au maximum que possible de ce qu'on commence à concevoir, imaginer de ce côté-ci de l'Atlantique, de la situation des esclaves.
Oui, non, mais ils sont habillés en harmonie avec les salons qu'ils fréquentent. Oui. On ne va pas les laisser en haillons au milieu des salons. Donc, on les habille. De toute façon, ce sont des jouets. Oui. Donc, on va les couvrir de fanfreluches, de turbans, de perles, de culottes, de satin, de dentelles. Ils sont habillés comme les gens de leur époque. Et c'est comme ce sont c'est comme des petites poupées, si vous voulez, comme des mascottes. Donc, en fait, on joue à la poupée avec ces enfants. Là. Mais ça peut aller très loin. Je pense que certains d'entre eux ont probablement subi des abus sexuels, par exemple. C'est des choses dont on ne parle jamais, mais ça a probablement existé. Il y a d'ailleurs des enfants qui sont nés de ces unions, on le sait aujourd'hui. Donc c'est important de dire ça, parce qu'en fait, c'est un moment où, si vous voulez, il va y avoir une population noire qui va s'installer en France sous la forme de cette servitude domestique qui accompagne les grandes familles de bourgeois ou d'aristocrates propriétaires de plantations. Et quand ils arrivent en France, bon, au début, ils sont dans les salons, ils distraient, ils travaillent, ils travaillent à la lingerie, ils sont cochers, ils servent à table, ils distraient la bonne société. Mais en fait, très vite, il va y en avoir tellement, parce que toutes les villes portuaires vont être investies par les familles.
Madame Alexis, c'est ma question suivante.
Ouais.
Ce que je voulais vous dire, au XVIIIe siècle, on aurait souhaité cantonner la question noire et donc celle de l'esclavage aux colonies. Mais à Paris et dans les grands ports apparaissent des problèmes qui vont mener à la création de la police des Noirs. Mmh. Il ne s'agit pas d'une brigade de police qui traque les afro-descendants, mais d'une ordonnance de 1777 qui réglemente la présence des gens de couleur sur le territoire. Et je voudrais vous lire un extrait. Ces gens de couleur se sont multipliés à un tel point que le plus petit particulier en a un à son service. Les colons ont inondé le royaume de cette espèce d'homme dont le nombre et la qualité du sang ne peut qu'altérer l'uniformité de celle des habitants de ce royaume. De quoi s'agit-il et que craint-on ?
Alors, la police noire, vous l'avez dit, ce n'est pas une brigade de gens en uniforme, c'est une réglementation. Et en fait, le problème qui se pose au roi de France à ce moment-là, vous l'avez dit d'abord, c'est cette présence africaine qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui, mais qui est là. Et vous avez des milliers d'Africains déportés en esclavage aux Amériques qui vivent sur le sol de France. Or, le sol de France, depuis 1315, obéit à une loi qui d'ailleurs donne naissance aux mots francs et français, qui est que nul ne peut être tenu en esclavage sur le sol de France. 1315, Louis X le Hutin. Donc depuis 1315, c'est écrit, enfin c'est gravé dans le marbre, si vous voulez, un des principes fondamentaux de la nation française qui se construit, c'est de dire que personne n'est censé être esclave sur le sol de France. Or, ces gens qui sont amenés dans les bateaux avec les maîtres et les colons qui les transportent avec eux et qui s'en servent, en fait, ils contreviennent à la loi. Et très vite, vous avez des domestiques qui évoluent à Bordeaux ou à Toulouse ou à La Rochelle ou à Paris même, croisent le chemin d'abolitionnistes anglais, parce que c'était surtout les Anglais, mais également en France, il y a des abolitionnistes en France, croisent le chemin de francs-maçons. Qui leur disent, mais personne ne peut vous tenir en esclavage ici. Et qui vont aller jusqu'à assigner leur maître en justice. Et vous avez au XVIIIe siècle plusieurs procès retentissants devant le tribunal de Montpellier, devant le tribunal de Toulouse, où les tribunaux sont obligés de reconnaître le statut d'homme libre ou de femme libre à ces gens qui traînent leur maître en justice. Et donc ça devient un véritable problème parce que, évidemment, ces gens-là sont affranchis ont un reconnu libre sur le sol de France et ils peuvent rester en France en tant qu'hommes libres. Ils ne sont pas du tout obligés de repartir avec leur... Donc la question principale, c'est évidemment pour le roi que ces gens-là retournent dans les colonies d'où on les a amenés évite ce genre de procès retentissant.
Et humiliant.
Humiliant, mais surtout qui constituait des formes d'exemple et qui créait une jurisprudence qui permettait à d'autres gens à leur tour d'aller devant les tribunaux et de faire reconnaître leur état d'homme ou de femme libre. Donc la police des Noirs vise à garder les populations qui arrivent dans les bagages, on dirait entre guillemets, des colons, de les garder sur leur lieu de travail. Et dans les ports, on va aller même jusqu'à des dépôts.
Des dépôts, c'est ça, ouais.
Qui sont en fait des lieux de rétention d'où ces Africains réduits en esclavage ne peuvent pas sortir. Voilà. Et dont la durée du séjour sur le territoire français est aménagée par ce document de police des Noirs. Il est aménagé de manière à ce que les maîtres soient obligés à un moment donné d'abord de payer une amende s'ils rentrent sur le territoire avec des domestiques, des esclaves noirs, mais également s'ils prolongent le séjour de ces domestiques, ils payent de nouveau des taxes. Ce qui fait qu'à un moment donné, il faut jouer sur le fait que les maîtres ont intérêt à rapatrier ces esclaves noirs vers les colonies, d'où le roi voudrait qu'ils ne soient jamais sortis, bien sûr. Donc voilà en gros le contexte dans lequel ça évolue. Et il y a des très grands procès qui sont connus, voilà, y compris même chez ces fameux pages noires dont vous parliez tout à l'heure, ou dont on parlait tout à l'heure, de ces domestiques noirs qui travaillaient au service de familles aristocratiques. Et pendant, au début de la Révolution, vous avez certains d'entre eux qui vont s'engager dans la lutte pour leurs droits avec les gens de couleur, qui vont rejoindre les initiatives des gens de couleur autour de Julien Raymond et qui vont témoigner des mauvais traitements qu'ils ont subis dans les familles aristocratiques où ils vivaient.
C'est le cas de, si je ne me trompe pas, alors je n'ai pas vu le film, de Zamor et de la Dubarry.
Voilà, ouais. C'est le cas. Bon, le film ne raconte pas vraiment l'histoire de Zamor, il est mentionné dans le film, mais donc c'est pas le sujet, si vous voulez, du film. Je le regrette d'ailleurs, parce que je trouve que ça aurait été intéressant à notre époque. Mais je pense que le film se centre sur le roi et la Dubarry. Mais effectivement, Zamor a été amené enfant, tout petit, et il a servi de mascotte. Voilà, il faisait le clown dans les salons de Madame Dubarry. Et après, au début de la Révolution, il a témoigné devant le tribunal révolutionnaire en racontant les traitements qu'il avait subis, les moqueries, les brimades, les coups. Et il ne parle pas d'abus sexuels, mais on imagine très facilement les abus sexuels qu'il y a derrière et dont on ne parlait pas. Donc voilà, et Zamor est un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres, n'est-ce pas ? Et c'est vrai que c'est intéressant parce que Zamor est intéressant parce que justement, il fait partie de ces gens qui vont être émancipés par les idées de la Révolution. La Révolution va lui permettre d'exprimer ce qu'il a vécu. Il mourra d'ailleurs assez oublié dans la misère, mais il va pouvoir expliquer ce qu'il a vécu et il va rejoindre les idées de la Révolution. Donc c'est intéressant de voir comment la Révolution va faire basculer tout ça.
On a commencé d'ailleurs par mentionner des abolitionnistes qui sont au Panthéon, Condorcet, l'abbé Grégoire, Schœlcher, etc. Au XVIIIe siècle, dans l'Hexagone, on a vendu la situation dans l'Empire colonial. De la souffrance, bien évidemment, c'est à ce prix que vous mangez du sucre, la citation de Voltaire
dans Candide. Candide.
Donc on a vendu de la souffrance, mais aussi des résistances. Et certains soulèvements ont un retentissement en Europe. Et donc parlons du cœur de cette exposition, les diverses formes de résistance à l'esclavage et à la colonisation. Toussaint Louverture est probablement le plus connu, avec une plaque à son nom au Panthéon depuis 1998, mais bien avant lui, il y a eu d'autres noms, et je voudrais qu'on parle d'une femme, Anna Kaona. Moi je connais très peu son histoire, je connais la chanson de Cheo Feliciano, mais je connais mal l'histoire de cette jeune femme, et c'est donc une femme qui est Taïno, c'est ça ?
Ana Kaona, india de raza cautiva. Ana Kaona, de la región primitiva. Ana Kaona, india de raza cautiva. Ana Kaona, de la región primitiva. Ana Kaona, oí tu voz, cómo lloró, cuánto gimió. Ana Kaona, oí la voz.
Alors, la reine Ana Kaona, parce que c'est une reine amérindienne qui est au pouvoir, qui règne sur l'un des 5 cacicas, parce que c'était des caciques, hein, on appelle ça des caciques, les souverains amérindiens. Il y avait 5 cacicas sur toute l'île de Saint-Domingue, enfin, Hispaniola à l'époque, quand elle est conquise par les Espagnols. Il y a 5 cacicas, donc 5 royaumes, sur l'île. Ana Kaona est la reine d'un des royaumes les plus puissants. Voilà. Et ensuite, elle va d'ailleurs épouser Kaonabo, qui est un autre cacique de royaume voisin. Et à eux deux, évidemment, ils vont constituer un des royaumes les plus puissants de la grande île d'Haïti. Puisqu'à l'époque, ça s'appelle Haïti. Hein. C'est intéressant de dire que le mot Haïti,
c'est le mot
amérindien. Donc Ana Kaona donc règne sur cette partie. Et Ana Kaona va essayer de résister aux Espagnols, à la pénétration espagnole. D'abord, elle va commencer par les accueillir avec beaucoup de générosité et d'élégance, parce que les Amérindiens étaient un peuple extrêmement civilisé et raffiné. Et l'accueil, d'ailleurs, Christophe Colomb raconte l'accueil qu'il a reçu, pour terminer sa phrase en disant qu'ils sont tellement gentils qu'on pourrait tous les réduire en esclavage avec une grande facilité. Ils ne connaissent pas le métal, ils se battent avec des armes vraiment en roseaux, en choses vraiment très... ils vivent de la pêche, de la cueillette, donc ils ont une vie assez douce, assez facile, de chasse, de pêche, de cueillette. La terre est bonne, la terre est riche. Et en fait, quand ils vont accueillir les Espagnols, ils vont commencer par les accueillir avec générosité, ouverture. Évidemment, très vite, ils vont s'apercevoir de la violence. Et quand Ana Kaona va comprendre ça, elle va réunir les royaumes pour combattre les Espagnols. Et quand le successeur de Christophe Colomb rentre en Espagne pour rendre compte de son voyage au roi et à la reine.
Et ses contemporains, déjà les contemporains de Christophe Colomb, disent que c'est un fou furieux, qu'il est bizarre et va être emprisonné, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, oui, mais surtout, il laisse Nicolas Ovando. Et Nicolas Ovando, c'est pas Christophe Colomb. Il n'y a pas la moindre idée ou de diplomatie ou d'alliance politique ou de dialogue ou de... Christophe Colomb est à peine parti vers l'Espagne pour rendre compte de sa mission que Nicolas Ovando fait arrêter toute la noblesse indienne lors d'un dîner que Anacaona a organisé en son honneur, et il met Anacaona dans les fers et il la fait pendre à Saint-Domingue. En présence de toute la noblesse indienne qu'il massacre ensuite. Voilà. Sachant qu'il y avait déjà des Amérindiens qui avaient été réduits en esclavage par ces premiers Espagnols, enfermés dans les mines d'or, parce qu'il y avait quelques mines d'or, enfermés dans les mines d'or où ils sont morts très vite parce qu'ils n'étaient pas aguerris, prêts pour ce genre de vie. Et il y a quand même quelques grandes batailles des Amérindiens qui essayent de résister aux Espagnols, mais qui évidemment ne sont pas équipés au point militaire pour vraiment affronter ces armées redoutables. Donc voilà, Anacaona, elle évolue dans ce système. Pourquoi elle reste si fort dans les mémoires à travers une chanson d'un je sais pas si des portoricains
ou cubains, je sais plus où. Portoricains
aujourd'hui. C'est parce qu'Anacaona, avant sa mort, a évidemment échangé avec les Espagnols et notamment avec un personnage dont on parle dans l'exposition qui est Las Casas, qui va très vite se mobiliser contre la réduction en esclavage des populations amérindiennes. Et Las Casas, avant d'en arriver là, est un aumônier qui est dans la suite de l'entourage de Christophe Colomb, et il va embaucher des scribes, et ils vont, en voyant les spectacles, parce que la reine Anacaona est également une artiste, elle est à la fois une ballerine et une poétesse. Donc, dans les cérémonies auxquelles elle convie les Espagnols, elle se produit elle-même, elle danse et elle déclame. Et donc, Las Casas va faire relever les poésies d'Anacaona. Et en fait, grâce à ça, on sait qu'il y avait toute une tradition littéraire, poétique, qu'on appelle les areitos, chez les populations amérindiennes, mais pas seulement espagnoles, bien sûr. Et grâce au relevé de Las Casas et d'autres missionnaires, on a quelques traces littéraires de cette tradition orale qui était très raffinée, hein, très, très, très sophistiquée, je dirais. Et donc Anacaona, à travers à la fois sa personnalité, parce qu'elle est considérée comme une très belle femme, elle avait tout un cérémonial qu'elle avait mis en place, des atours tout à fait extraordinaires. Enfin, la littérature en Haïti le raconte un peu. Mon père a écrit un très beau texte sur Anacaona qui s'appelle « Le dit de la fleur d'or », parce que Anacaona, ça veut dire fleur d'or. Et donc, à travers ça, on voit revivre comme ça tout ce monde englouti. Et Anacaona est restée, grâce à ça, dans les mémoires, à la fois probablement pour la splendeur de son règne, mais aussi parce qu'elle est devenue une figure résistante avant même l'arrivée des Africains. Donc elle est encore, aujourd'hui, vous l'entendez, dans des chansons, dans des poésies, dans des histoires, dans toute la Caraïbe, c'est un personnage qui reste vivant dans la mémoire collective.
Et justement, vous avez mentionné donc Bartolomé de Las Casas.
Oui.
Si je ne me trompe pas, c'est la controverse de Valladolid ou...
Avant ça même.
Avant ça.
La controverse de Valladolid, c'est le moment où il va affronter ses adversaires politiques qui vont défendre l'idée d'une réduction en esclavage des populations amérindiennes puis des Africains. Las Casas va défendre, à la conférence de Valladolid, il va défendre la dignité humaine des Amérindiens. Il va souligner le statut d'êtres humains que constituent les Amérindiens. Mais même avant ça, il va écrire, quand il écrit « La destruction des Indes », où il raconte comment les Espagnols se comportent dans leur conquête dans les Amériques. Il y a des récits absolument effroyables de scènes auxquelles l'abbé Las Casas va assister. Et c'est ensuite seulement qu'il y aura la contre-décider si on met ou non les gens en esclavage, au fond.
Dans les cryptes du Panthéon, on peut donc croiser les tombes de Rousseau et de Voltaire, ces grands penseurs des Lumières. Ils se sont prononcés sur le sujet de l'esclavage. Que leur doivent les mouvements de résistance à l'esclavage? Je sais que leurs écrits sont, je ne vais pas dire ambigus, mais en tout cas donnent lieu, à, encore une fois, à des interprétations très différentes. Donc parfois on dit les Lumières et l'esclavage, alors qu'ils ne pensent pas tous pareil, n'ont pas tous les mêmes intérêts. D'ailleurs, ils ne se voient pas forcément comme des hommes de la même époque. Hein. Montesquieu et Condorcet, en fait, ils ne sont pas...
Ils ne sont pas tout à fait contemporains.
Ils sont pas contemporains. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir de la question des Lumières et de l'esclavage?
D'abord, pour bien comprendre, je vais même, si vous voulez, rétablir une petite chronologie, si vous permettez. Parce que quand on travaille avec les historiens, comme j'ai eu la chance de le faire toutes ces 10 dernières années, ce qui est agréable avec les historiens, c'est qu'ils vous rappellent toujours à des bornes historiques. Or, quand si on regarde les révoltes des esclaves, y compris des révoltes très organisées, hein, qui débouchent sur des campements d'esclaves qui vont durer des décennies, comme les Quilombo du Brésil, ouais, ou les Palenques de Colombie. Ces révoltes, elles commencent dès 1514. D'accord ? Donc quand on a dit ça, on dit déjà beaucoup de choses. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai essayé de montrer dans l'exposition, ce que nous, avec Jean-Marie Théoda et moi-même, on a essayé de montrer, c'est qu'en fait, les premiers abolitionnistes sont les esclaves eux-mêmes. C'est ça, en fait. L'idée même d'abolition, c'est un flambeau qui va être tenu par les esclaves eux-mêmes, parce que 1504, c'est Colomb et Nicolas Ovando qui va tuer donc la fameuse reine Anacaona à Saint-Domingue. 1510, le roi d'Espagne va être autorisé par le pape à réduire les êtres humains en esclavage, y compris des Africains d'ailleurs. Et 1514, vous avez les premières révoltes d'esclaves. Donc, 1514, vous voyez, 1510, 1514, vous avez déjà quelques Africains qui, eux-mêmes, bénéficient de l'expérience des Amérindiens, des derniers Amérindiens. Vous avez là, d'ailleurs, des échanges qui vont avoir lieu culturels et des enjeux de survie qui vont être permis grâce à la rencontre des Amérindiens et des Africains. 1514, 1521, 1523, 1526... 1529, 1530, on va comme ça jusqu'à 1599. Vous avez des révoltes, des insurrections et des campements retranchés, des camps retranchés qui se mettent en place dès le début de l'esclavage.
Le marronnage.
Marronnage, petit marronnage quand il s'agit de gens qui vont individuellement fuir leurs conditions effroyable sur les plantations, grand marronnage, quand justement ça va déboucher sur l'organisation de campements. Alors, dans certaines îles de la Caraïbe, c'est plus facile, c'est notamment le cas en Haïti, parce que Haïti, en langue taïno, veut dire montagneuse. Donc en fait, dès qu'on quitte les côtes, on monte en altitude et on peut monter jusqu'à plus de 2000 mètres en Haïti. Donc en fait, les gens vont très vite comprendre que s'ils se réfugient en altitude, les colons ne peuvent pas aller les chercher. Et c'est là que vont s'organiser ces fameux camps retranchés d'esclaves, qui va être le grand marronnage, là. Voilà. Donc, c'est l'idée qu'on a essayé de développer dans l'exposition, c'est que les résistances commencent avec l'esclavage. On ne peut pas penser l'un sans regarder l'autre. Même avant, parce que vous avez des révoltes sur le sol africain, et vous avez des révoltes sur les bateaux, y compris des révoltes victorieuses.
Je voulais en parler, une révolte sur un navire qui s'appelle Diane, qui part de Nantes, je ne sais plus en quelle année, au milieu du 18e, et scénario improbable.
Oui, je crois que c'est sur les côtes du Ghana, je crois, donc la côte de l'or, il me semble. Enfin, je ne me souviens plus très bien du port d'attache, enfin du port de relâche africain, mais disons que bon, il vient de là, il embarque je ne sais plus combien, plus d'une centaine, peut-être même 200 captifs, hommes, femmes et enfants, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait souvent dans les cargaisons près de 12% d'enfants. Dès qu'il appareille pour, disons, en direction des Amériques, les esclaves arrivent à briser une cloison,
oui,
à s'armer avec les haches qu'ils trouvent, et ils attaquent l'équipage. Et ils sont encore au large des côtes africaines, si vous voulez. Et ils s'emparent du navire, au point où l'équipage et le capitaine sont obligés de sauter à la mer. Et ils sont rattrapés, ils sont réduits à leur tour, disons, détenus.
Parce qu'en fait, il y a des chaloupes, si voilà. Je ne me trompe pas. Il y a des chaloupes, voilà. On les rattrape. Et
voilà. Voilà, donc ils sont rattrapés, puis ils étaient très près des côtes. Ils sont rattrapés, les Africains se libèrent et retournent
sur
les côtes. Et ils vont vendre leurs trafiquants disons, aux Européens qu'ils rencontrent. Ils vont revendre les trafiquants qui essayaient de les réduire en esclavage. Bon, c'est un exemple. J'ai utilisé l'exemple de la Diane pour montrer que c'était possible, ça arrivait. Il n'y a évidemment pas que ce genre. Il y a beaucoup de révoltes plus loin en mer qui sont beaucoup plus compliquées. Il y en a une qui est très célèbre aux États-Unis.
Amistad. Hein.
Qui est l'Amistad, où les gens n'étaient évidemment pas en mesure de retrouver par la navigation le chemin du retour. Mais néanmoins, ont pu être jugés libres à un moment donné en procès aux États-Unis. Enfin voilà, et puis vous avez même des razzias qui sont empêchés par des villageois en Afrique. Vous aviez des espèces de chaloupes qui mouillaient dans des rivières adjacentes qui permettaient ensuite de remonter les populations rasiées vers les côtes, vers les navires négriers. Et là, vous avez des exemples de villageois qui attaquent ces chaloupes et qui libèrent les esclaves avant même qu'ils soient emmenés
en mer.
Sur les navires négriers sur les côtes. Donc voilà, il y a énormément d'exemples. Donc tout ça, pour moi, c'est une seule et même volonté de maintenir la liberté. C'est pour ça qu'on a appelé notre projet avec Jean-Marie Théoda un récit autour d'une généalogie de la liberté, parce que tout ça appartient à une même volonté de l'être humain de rester libre.
Cette volonté de liberté, cette place que les premiers concernés, cet attachement des premiers concernés à la question de la liberté, on va en parler dans un prochain épisode autour du contrat racial de Charles Mills et voilà, bref, rapport aux Lumières.
C'est ça. Mais je vais quand même ajouter un petit mot,
oui,
sur les Lumières, si vous voulez.
Oui,
bien.
Oui, allez-y.
C'est qu'en fait, on va très vite. Je pense que les philosophes des Lumières, d'abord, appartiennent pas forcément tous à la même génération, vous l'avez dit, c'est important. Donc les Lumières, ça s'étale sur en fait une très longue période.
Ce n'est pas que français.
Voilà.
C'est très important de le préciser, hein, pour un public français.
Maintenant, il est évident que les Lumières vont incuber les idées de la Révolution, les idées en tout cas d'égalité, de fraternité, d'humanité, de liberté naturelle, etc., sont incubées chez les penseurs des Lumières et vont vraiment s'accomplir d'une certaine manière dans les principes de la Révolution française. Mais il faut aussi penser que les auteurs qui vont développer ces idées sont également des hommes de leur époque, avec les préjugés de leur époque. Et je ne sais pas si quand nous serons morts, on ne découvrira pas chez nous des idées, des préjugés que nous avons adoptés et qui étaient des préjugés de notre époque. Je pense que ça peut être très difficile d'échapper aux préjugés de son époque. Et manifestement, il y a évidemment chez les philosophes des Lumières ce problème, notamment sur la question de la race, qui est donc un principe qui naît à ce moment-là. Hein. Il y a un des historiens français qui développe ce concept de la race dès 1684 à partir d'un récit de voyage où il va diviser l'humanité en trois races humaines à partir de la couleur. Et donc, vous voyez, ça précède d'un an le Code Noir, la rédaction du Code Noir. Et donc, on va retrouver chez les philosophes des Lumières ce genre d'ambiguïté. Alors, par exemple, vous avez la définition du mot nègre dans cette Bible des Lumières, qui est l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Au mot nègre, il va ajouter « diffère des autres hommes par tous les traits de leur visage, des nez larges et plats, de grosses lèvres et de la laine au lieu de cheveux paraissent constituer une nouvelle espèce d'homme. » Donc là, déjà, on a la distinction raciale qui pointe le bout de son nez, n'est-ce pas ? Puisqu'on parle d'espèce d'homme. Mais ensuite, c'est encore pire. Dans l'article de la première édition de l'encyclopédie, il poursuit plus loin. « Caractère des nègres en général. » Si par hasard on rencontre d'honnêtes gens parmi les nègres de la Guinée, le plus grand nombre est toujours vicieux, dit-il entre parenthèses, ils sont pour la plupart enclins au libertinage, à la vengeance, au vol et au mensonge. Fermez les guillemets. Voilà, donc là, ce sont les idées communes de l'époque, dont manifestement les philosophes de lumière ont du mal à se départir. Et tous d'ailleurs ne sont pas à égalité là-dessus, il va y avoir des attitudes un petit peu différentes. Il y a des tensions dans tout ça, et rien n'est tout blanc ou tout noir. C'est une des choses qu'on essaye d'expliquer aussi dans l'exposition, c'est que tout ça est très nuancé, et si on veut vraiment comprendre la période, il faut être nuancé.
Vous mentionnez la question de la dette d'Haïti. En 2022, donc le New York Times a sorti une grande étude sur le sujet. Je trouve que ça a eu un très faible écho au niveau français.
C'est un sujet très difficile en France. Le Monde a traduit intégralement le dossier du New York Times, donc il est consultable encore aujourd'hui en ligne, traduit, dans son intégralité. Donc ça, c'est une chose que vous pouvez aussi partager avec vos auditeurs. Je pense que c'est un sujet compliqué parce que je pense qu'en France, très longtemps, on a pensé que c'était un sujet qui était ignoré. Et comme ça n'est pas très glorieux comme histoire que de faire acheter sa liberté à des gens qui l'ont gagné sur le champ de bataille, je pense que la France, naturellement, n'avait pas vraiment envie d'entendre parler de ce fait historique. Et puis il y a aussi autre chose qu'il faut reconnaître, que les Français d'aujourd'hui pourraient avoir du mal à comprendre si on ne trouvait pas des équivalences que je vais essayer de formuler. Mais il faut bien comprendre que quand Saint-Domingue prend sa liberté par la guerre d'indépendance en 1803, gagnée donc sur le champ de bataille, la bataille de Vertières. Il y a plusieurs livres qui sont d'ailleurs sortis récemment. Il y en a un qui sort en ce moment aux éditions Hémisphère qui vont raconter le combat de Vertières comme la dernière grande bataille que les soldats de la Révolution haïtienne vont mener contre les soldats de Bonaparte. Cette période-là clôt une époque incroyable dont la France ne parle jamais en ces termes, c'est que Saint-Domingue représente à elle seule 50% du commerce colonial de la France. C'est-à-dire la rente coloniale que rapporte le travail des esclaves à la France est colossale. Et donc, la manière dont la France va négocier la reconnaissance de l'indépendance est à la mesure de la perte amère de cette colonie. D'ailleurs assez maladroite aussi quand on voit le contexte politique, la façon dont Bonaparte a géré cette situation. Mais donc ça montre aussi 50% du commerce colonial. Saint-Domingue rapportait à soi seul tout ce que toutes les autres colonies de la France rapportaient toutes ensemble. Donc vous pouvez imaginer la perte. Et la seule manière de comparer, je sais que mon collègue Jean-Marie Théoda, quand il en parle, compare dans la mentalité de l'époque la perte de Saint-Domingue à la perte de l'Algérie française.
Oula, on arrive sur des sables mouvants.
Non,
là.
Mais je ne vais pas parler de ça. Mais c'est pour montrer que dans la psyché, dans la mémoire collective française, c'est un choc de même nature et de même amplitude de perdre Saint-Domingue et de perdre près de deux siècles plus tard, l'Algérie pour la France. Donc voilà, ça vous donne une idée des retombées, et je pense que ça explique la difficulté que la France avait avec cette histoire de reconnaître l'indépendance en faisant payer une dette de 150 millions de francs or et en obligeant Saint-Domingue à contracter des emprunts auprès de banques exclusivement françaises, dont le CIC qui a reconnu aujourd'hui ça.
Le New York Times révèle aussi comment la banque CIC a rapatrié en France tous les revenus de la Banque nationale d'Haïti via des emprunts toxiques accordés à Port-au-Prince pour payer sa dette. Ces capitaux auraient notamment permis à la banque parisienne de financer la construction de la Tour Eiffel, des révélations auxquelles le Crédit Mutuel, maison mère du CIC, a réagi hier.
Parce qu'il est important d'éclairer toutes les composantes de l'histoire de la colonisation, y compris dans les années 1870, la Banque Mutualiste financera des travaux universitaires indépendants pour faire la lumière sur ce passé.
Le gouvernement français n'a pour le moment fait aucun commentaire à ce sujet. Depuis 2015, l'Élysée préfère parler de dette morale envers Haïti plutôt que d'une réelle compensation financière.
Donc voilà, c'est si on veut vraiment parler du retombée, je pense qu'il y a celle-là. Et puis il y a l'autre retombée qui me paraît quand même très importante et qu'il faut mentionner. L'insurrection décisive des esclaves à Saint-Domingue, devenu Haïti, en fait, va être un exemple qui va continuer à vivre dans l'esprit des gens jusqu'à aujourd'hui. Vous voyagez dans toute l'Amérique latine, vous voyagez en Amérique centrale, dans toute la Caraïbe, même aux États-Unis, vous voyagez en Afrique, et l'image d'Haïti est extraordinaire, comme une image de, vraiment d'héroïsme, d'intelligence politique, même s'il y a pas, c'est pas parfait, bien sûr, et de force, de courage. Jusqu'à aujourd'hui, dans l'exposition, nous avons des documents inédits, nous avons des lettres de Toussaint Louverture, et elles nous ont été prêtées par un collectionneur noir américain qui s'appelle Walter Evans et qui, toute sa vie, a collecté ces documents par fascination, par admiration pour l'histoire de la Révolution haïtienne. Et c'est lui qui, aujourd'hui, possède ces lettres de Toussaint Louverture. Et c'est même lui qui possède la lettre de Bonaparte à Toussaint Louverture que vous avez vue dans l'exposition. Elle n'est pas dans les collections publiques françaises. Elle est dans une collection privée américaine.
Le lien avec l'Amérique latine, ben, Bolivar, toutes ces choses-là, tous ces mouvements de révolution nationale qu'on va avoir au début du 19e siècle, s'appuient sur le précédent haïtien. Et justement, cette exposition, elle a une puissance mémorielle et pédagogique indéniable. Vous avez travaillé sur des enjeux de mémoire depuis un moment maintenant. Selon vous, on en est où à Paris en 2024 ? J'ai vu il y a quelques jours qu'on relance le débat, même les appels d'offres pour le mémorial du Trocadéro. Moi, mon avis personnel, c'est qu'en tant que guide conférencier, j'aimerais avoir cette exposition « Oser la liberté » de façon permanente dans un musée du cœur de Paris. Quand ?
Bah écoutez, moi, vous voyez, pour juste une minute parler de moi personnellement, je suis comme vous. Et avec l'expérience accumulée, plus toutes les relations internationales, parce qu'il y a un grand réseau, non seulement européen, mais international, sur ces questions-là de chercheurs, de conservateurs de musées, de gens comme moi qui conçoivent des expositions. Il y en a à peu près dans le monde entier. C'est des questions qui maintenant sont débattues partout. Il faut quand même signaler que la France est très en retard sur toutes ces questions. Le musée national de l'esclavage en Grande-Bretagne existe depuis 30 ou 40 ans, je ne sais plus, ou peut-être 40 ans, en tout cas plus de 20 ans. Le musée de Liverpool, hein, puisque Liverpool est le plus grand port négrier d'Europe. Mais vous avez également un musée au Danemark aujourd'hui, d'accord ? Vous avez des grandes expositions autour de l'histoire de l'esclavage aux Pays-Bas.
À Amsterdam, j'ai eu la chance de visiter...
Vous avez vu Someone is Getting Rich, voilà, quelqu'un devient riche.
Alors moi, ce que j'avais vu, c'était une exposition autour du carrosse de la famille royale.
Donc il y a vraiment un travail de fond, ouais, qui est accompli, notamment dans les collections de patrimoine des Pays-Bas, c'est-à-dire qu'ils partent d'objets comme je l'ai fait dans notre exposition avec les sucriers en argent qui appartenaient donc à la cour des Orléans, probablement à la cour royale d'ailleurs, même si c'est pas vraiment dit. On part d'un objet et autour de l'objet, on arrive à reconstituer comme ça tout un pan de l'histoire. Donc ils l'ont fait et puis récemment vient de se terminer donc cette exposition Someone is Getting Rich, où pareil, avec le même principe, il y a une conservateur qui était d'ailleurs conservatrice du musée Matisse ici avant en France et qui a développé ce projet. Et par exemple, pour finir là-dessus, cette exposition-là, une partie d'exposition devient exposition permanente,
okay,
au sein du musée. Donc là, on
attendez, vous parlez de quelle exposition ?
Someone is Getting
Rich.
Ah oui,
rich. D'accord, très, très bien.
C'est l'ancien Tropen Museum qui a changé de nom maintenant parce que c'était un nom colonial, évidemment. Donc, voyez que une partie de l'exposition devient maintenant une exposition permanente que les gens pourront voir à tout moment. On pourra aller visiter. Voilà. Donc, je pense que là, vraiment, se pose un enjeu qui est européen, en fait. C'est l'enjeu de l'histoire de l'esclavage et l'Europe, bien sûr. Mais moi, personnellement, je travaille avec un groupe de gens à un travail de réflexion autour de la construction d'un musée de l'esclavage en France. Et nous y travaillons depuis plusieurs années. Et évidemment, moi, j'ai travaillé beaucoup sur les collections publiques dans les musées de France, parce que maintenant, j'ai fait l'inventaire. Ça fait partie des choses que j'ai faites pour le comité national. J'ai, avec le ministère de la Culture, j'ai développé l'inventaire de tout ce qui existe dans les collections publiques en France. Et on pourrait là relier cet inventaire aux autres inventaires européens, et on pourrait arriver vraiment à avoir un lieu de pédagogie, non seulement un lieu de mémoire, mais un lieu de pédagogie, parce que le projet de mémorial tel que j'en entends parler actuellement, il se concentre sur 1848, Mais 1848, c'est la fin de l'histoire, en tout cas des combats contre l'esclavage proprement dit. À partir de là, vont commencer des combats pour la liberté. Je pense que 1848, ça me paraît un peu court comme mémorial. Il me semble que ce serait important de rendre hommage à l'ensemble de cette histoire. C'est ce que nous avons essayé de faire dans l'exposition, c'est de rendre hommage à tous les acteurs, y compris aux Amérindiens, vous l'avez vu, puisqu'il y a un portrait d'Anacaona dans l'exposition. Il faut rendre hommage à tous les acteurs qui nous ont amenés à la liberté dont vous et moi nous pouvons jouir aujourd'hui.
Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter, quelque chose que une question que je vous ai pas posée, quelque chose que vous aimeriez transmettre à nos auditeurs et auditrices?
Plutôt que de parler de devoir de mémoire, je voudrais qu'on accepte l'idée de parler de travail de mémoire. Le devoir, bon, c'est une chose qu'on n'a pas forcément envie de faire, qui barbe tout le monde, où on peut vous chicoter si vous vous y mettez pas, ou vous chicotez vous-même pour vous y mettre. Le travail de mémoire, c'est quelque chose de beaucoup plus simple. Simplement, il faut accepter de regarder des chapitres de l'histoire avec lesquels on peut avoir un peu de difficulté. Je voudrais dire peut-être une chose importante, c'est que il ne faut pas que les Français aient peur de ce sujet de l'esclavage, parce que ce sujet de l'esclavage, tout le monde en a peur. Et moi qui ai travaillé des années sur ce sujet, je voudrais dire que l'Afrique a peur de l'histoire de l'esclavage, puisque des Africains ont été livrés aux Européens pour partir en esclavage dans les Amériques. L'Europe, la France, a peur de l'esclavage parce qu'elle a acheté des êtres humains pour les transporter et elle a déshumanisé des millions et des millions de gens. Mais également, les Antillais et les gens qui ont vécu l'esclavage ont du mal également avec ce sujet. Et vous voyez que même pour parler d'un sujet, il faut être plusieurs, il faut avoir un interlocuteur. Pendant très longtemps, les Antillais eux-mêmes le vivaient comme une honte, comme une déshumanisation dont ils n'avaient pas envie de parler. Donc moi, je rappelle toujours à tous les acteurs, quels qu'ils soient, et surtout ceux qui disent que c'est des vieilles histoires et qu'il faut les oublier, qu'en fait, tout le monde a du mal avec ça et que le déni ne nous sert à rien puisqu'on ne comprend même pas aujourd'hui d'où vient le racisme. On ne comprend pas pourquoi il y a des cris de singes dans les stades, alors que quand on voit les tableaux du 18e, on voit ces petits esclaves, on les voit représentés à côté d'un petit singe ou d'un petit perroquet. Donc on comprendrait beaucoup mieux ce qui se passe dans notre pays si on acceptait de regarder l'histoire. Voilà, c'est ça que je voudrais dire, parce que c'est réparateur. C'est comme ça qu'on a conçu l'exposition. C'est réparateur, c'est utile, ça apaise les relations sociales et ça nous permet de vivre ensemble, tout simplement.
Madame Alexis, merci beaucoup pour cette contribution, pour tout votre temps, votre expertise. Chers auditeurs, auditrices, j'espère que cette discussion vous aura donné envie de visiter l'exposition qui, je le rappelle, est disponible jusqu'au 11 février. Il y a aussi au Panthéon l'exposition « We Could Be Heroes » de Raphaël Barantini qui met en scène des figures héroïques de cette lutte contre l'esclavage, connue ou méconnue, ayant contribué à jouer un rôle marquant dans son abolition et qui forme son Panthéon imaginaire. Cette émission a été réalisée par Juliette Frigui, que je remercie. Je remercie bien sûr également la Fondation pour la mémoire de l'esclavage pour leur soutien et qui nous a accueillis aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, dites-le nous. Si vous avez des remarques, suggestions, je suis tout ouïe. Si vous jugez ce podcast utile, je vous invite à mettre 5 étoiles et un gentil commentaire sur Apple Podcast et de le faire découvrir à des proches. On va mettre la gomme en 2024. On revient très vite, je l'espère, en février. Et si vous souhaitez participer à une balade, c'est simple, envoyez-nous un email leparisnoir@gmail.com. À très vite.